Le 6-9.
Listen anywhere.
Huawei Doba.
Wahda Homin Souria.
Sur France Inter.
Avec Ingrid Terwatt, bonjour.
Bonjour Simon.
Vous nous parlez ce matin de l'Indonésie, invité d'honneur du défilé du 14 juillet. Pays, nous dites-vous, auquel on aurait tort de ne pas s'intéresser?
Tout à fait. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles à presque 12 000 km de la France, est souvent encore perçue depuis l'Europe comme une périphérie. Et c'est une erreur, Simon. En effet, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé, le plus grand pays musulman au monde. Et c'est la première économie d'Asie du Sud-Est. De surcroît, Jakarta préside régulièrement des grands forums régionaux. On pense au G20 en 2022, à l'ASEAN en 2023. Alors, en l'invitant ce 14 juillet, la France poursuit en fait une double ambition, stratégique mais aussi commerciale. Elle tente de se repositionner après son retrait du Sahel, après l'annulation par l'Australie d'un contrat historique de vente de sous-marins et après le blocage de l'élargissement européen dans les Balkans mais aussi en Ukraine. Face à ces déconvenues, la France se tourne vers des puissances régionales capables d'influer sans forcément s'aligner.
L'Indonésie s'impose donc comme un nouveau partenaire stratégique.
Ce rapprochement s'inscrit dans une volonté française de tisser des liens avec ce qu'on appelle maintenant, un peu paresseusement il faut dire, le Sud global. C'est une expression fourre-tout qui prétend désigner tous les pays non occidentaux, comme si les aspirations de la classe moyenne urbaine de Jakarta étaient comparables à celles d'un pasteur nomade du haut plateau éthiopien ou d'un ouvrier de la périphérie de Sao Paulo. Ce Sud global n'existe pas. Il n'a ni ligne diplomatique unifiée, ni agenda partagé. Et c'est bien ça qui rend l'Indonésie fréquentable. Elle condamne l'invasion de l'Ukraine, mais elle refuse les sanctions contre Moscou. Elle craint Pékin en mer de Chine méridionale, mais elle se méfie tout autant de l'encadrement américain. Elle ne veut pas choisir de camp, et c'est précisément pour cela qu'elle intéresse Paris. Le président indonésien, ex-général à la réputation controversée, élu en octobre dernier, a confirmé cette ligne de prudence stratégique. Attachement au multilatéralisme, refus des alliances exclusives, souveraineté avant tout. Cette posture, qui tranche avec les logiques d'allégeance, séduit une France désireuse de réinventer sa présence dans le bassin Indo-Pacifique.
Mais il n'y a pas que la stratégie, vous nous parliez aussi d'un volet commercial.
Oui, sur le plan commercial, je vous rappelle que Jakarta a commandé dès 2022 42 Rafales et 2 sous-marins Scorpène pour plus de 8 milliards d'euros. Et en mai dernier, une lettre d'intention a été signée pour de nouveaux achats. Frégates, radars, canons César. Alors, en accueillant l'Indonésie aujourd'hui, Paris n'invite pas seulement un ami, non, elle invite surtout un client. Mais une photo sur les Champs-Élysées ne suffit pas à construire un partenariat durable. Il faudra bien plus que des contrats d'armement pour peser. Il faudra investir dans les universités, dans la culture, dans la formation des élites. Et puis surtout, accepter que Jakarta ne votera jamais complètement comme Paris à l'ONU. Bref, l'Indonésie défilera ce 14 juillet et c'est un geste fort, mais ce n'est qu'un début, car le respect des grandes puissances émergentes ne se gagne pas uniquement par des symboles, mais par la constance.
Ingrid Terwatt, journaliste à Courrier International, merci beaucoup, à demain dans Géopolitique.
Merci.